Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Dans ce troisième épisode de Oser Dents, nous allons nous intéresser à deux secteurs d'un coup grâce au parcours de Nicolas Plain, qui a fait à la fois partie de l'administration publique et de l'enseignement supérieur. Nicolas nous parle de son vécu à la COP21 et de son expérience du monde de la recherche. Nous allons explorer ces secteurs pour tâcher de les comprendre et discuter des ponts que l'on peut construire entre eux comme autant de pistes à creuser pour accélérer la transition écologique. Bonne écoute. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous avez été membre du groupe de travail COP21 au ministère de l'Environnement et vous êtes actuellement conférencier à Polytechnique sur le sujet des énergies renouvelables. Vous êtes engagé pour la transition écologique et connaissez bien à la fois l'administration publique et l'enseignement supérieur. C'est pourquoi je vous propose d'explorer ensemble les enjeux auxquels ces secteurs font face en rapport avec la transition écologique pour aider ceux qui veulent s'engager à le faire au mieux et avec le plus d'impact possible. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous en dire un peu plus sur vos activités en quelques mots ?
Oui, merci beaucoup Jean-Philippe. Alors moi je m'appelle Nicolas Plain, j'ai 29 ans et je viens de terminer ma thèse, soutenir une thèse sur des sujets, des solutions pour amener l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Et depuis tout petit, je suis né dans un petit village au sud de Grenoble, au pied du massif du Vercors dans les Alpes. Et depuis tout petit, je parcours un peu les montagnes et des paysages magnifiques. Et j'ai eu envie de m'investir pour les protéger. Et justement sur cette thématique de l'atténuation au dérèglement climatique qui menace justement ces paysages tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et pour ça, donc, j'ai voulu en savoir plus déjà sur comment fonctionne cet équilibre climatique. Donc c'est pour ça qu'à l'École Polytechnique, je me suis spécialisé en sciences du climat et défis pour l'environnement. Et ensuite, j'ai voulu m'investir dans l'administration, donc c'est pour ça que j'ai rejoint un corps d'État, le corps des ponts, pour m'investir donc dans l'administration publique sur ces sujets, et notamment dans l'équipe COP21, comme vous l'avez dit. Et ensuite, j'ai voulu me former par la recherche, par une thèse. Et puis maintenant, j'ai différentes activités. Je m'occupe dans une grande entreprise, Schneider Electric, qui s'occupe de transition écologique et sociale via de l'électricité renouvelable. Et aussi avec une collection de documentaires pour Ushuaïa Télé et France Télévisions pour vulgariser ces thématiques.
D'accord, merci. Ça fait pas mal d'activités.
Ouais, c'est très intéressant.
Alors, pour commencer, j'aimerais bien revenir sur une de vos expériences qui est celle de la COP21, donc quand vous travaillez dans l'administration, pour essayer de déblayer un peu le chemin et de comprendre un petit peu les enjeux de comment est-ce qu'on peut s'engager dans l'administration publique. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu comment s'est passée cette expérience, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, etc.
Oui, tout à fait. Donc, rejoindre l'équipe COP21, c'était vraiment une super opportunité. Parce que pour moi, agir pour lutter contre le dérèglement climatique, ça allait passer à l'échelle mondiale, parce que c'est un problème mondial. Et justement, avoir la chance de rejoindre cette COP21 qui permet de regrouper donc tous les pays de l'ONU, les plus de 190 pays de l'ONU, pour essayer de trouver des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique, c'était une belle opportunité. Donc en fait, j'ai rejoint cette équipe juste après la COP21, donc on avait déjà eu l'accord de Paris et qu'on allait plutôt vers des COP, les COP suivantes, comme la COP22 de Marrakech, des COP de l'action, donc de trouver des solutions. Et ce qui était très intéressant, c'était que la France était président de la COP, donc toutes les relations internationales avec les différents organismes internationaux, les organismes onusiens, passaient par nous. Donc moi, à l'époque, j'étais en charge de la décarbonation du secteur du transport. Donc, c'est-à-dire regarder pour le secteur du transport qui représente environ 25% des émissions de gaz à effet de serre, comment on allait trouver les bons objectifs et comment on allait mettre en place les bonnes solutions, les bonnes coalitions entre les différents pays pour se fixer des objectifs clairs, court, moyen et long terme pour arriver donc à l'accord de Paris qui est une économie zéro net émission dans la seconde moitié du XXIe siècle, donc dans les années 2060. Et donc, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'était une équipe qui était rattachée donc, au cabinet de la ministre de l'Environnement, qui était à l'époque Ségolène Royal, et qui était aussi une équipe interministérielle, donc entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Affaires étrangères. Donc, il y avait vraiment une diversité assez incroyable. On était donc, directement rattaché au cabinet, donc c'était très, très intéressant parce qu'on avait toutes ces problématiques. Et on devait trouver des solutions pour essayer, pour la COP22, de mettre en place tout ça et avec tous les différents acteurs des différents pays et des différentes institutions, des entreprises, de la société civile. Et c'est ça, en fait, je trouve, qui a fait vraiment le succès, la valeur ajoutée de cette équipe. C'est que par rapport aux précédentes COP, on n'était pas uniquement autour de la table les gouvernements et les administrations. Là, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir le débat, d'ouvrir les propositions à donc, non seulement les gouvernements, les institutions, la société civile, les grandes entreprises. Et on a vraiment mis à plat tous les problèmes qu'on avait, toutes les solutions qu'on pouvait trouver. Et on est arrivé à quelque chose qui était très intéressant. Après, donc, ça, c'est pour la partie positive. Pour la partie un peu plus négative, ce qu'on voit avec ces grandes réunions onusiennes, c'est que c'est des processus qui sont très lents. Il y a beaucoup d'inertie, c'est normal, parce qu'il faut trouver des accords entre 190 pays. Donc, c'est avec les intérêts des fois divergents de chacun. Et donc, on a un processus qui est très long. Et puis aussi, ce qu'on a vu à la COP22, c'est que lors de la deuxième semaine de la COP22, on s'est réveillé un matin en allant donc à la COP de Marrakech et en apprenant que Donald Trump avait été élu président des États-Unis et remettait en question l'accord de Paris qui avait été signé précédemment. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez un choc assez formateur aussi pour moi. Dans ma carrière, c'est de voir que finalement, quand on agit à l'échelle globale avec une grosse inertie entre les différents pays, donc on a des avancées qui sont lentes et des avancées qui peuvent être aussi remises en question du jour au lendemain par des décisions politiques. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez marquant et qui nous fait réfléchir un peu sur la transition de l'action au niveau global, la prise de conscience au niveau global qui est très importante, et la transition vers des actions plus locales. Où là on voit vraiment les résultats de nos actions et il y a peu de retours en arrière qui sont possibles.
D'accord, donc si aujourd'hui vous disiez, ouais, pour faire quelque chose au niveau administration, pour s'engager, vous conseilleriez plutôt le niveau local que le niveau national ou global?
Je pense que tous les niveaux sont importants parce qu'ils sont complémentaires et toutes les types d'actions sont importants. On peut s'investir dans l'administration, on peut s'investir dans des ONG en étant plutôt militant, dans des entreprises, dans des mairies, des communautés de communes. Mais en tout cas, ce que je trouve, c'est qu'on a vraiment un pouvoir pour mettre en place des solutions, trouver des solutions et accélérer cette transition écologique et sociale au niveau plus local. Parce qu'au niveau plus local, on a vraiment des personnes qui sont sensibilisées et on arrive à mettre en place des solutions plus facilement. C'est un peu ce qu'on voit aussi avec la ville de Grenoble. La ville de Grenoble qui a été élue la semaine dernière capitale verte européenne pour 2022. Et on voit qu'à l'échelle d'une grande ville comme Grenoble, on arrive à mettre en place des solutions qui sont ensuite pérennisées dans le temps et avec aucun retour en arrière qui est possible.
Et vous n'avez pas eu envie de vous engager au niveau local après, à un moment, suite à cette expérience?
Et bien justement, c'est pour ça qu'après la COP21, ce que j'ai voulu faire, c'est tout d'abord, un, me concentrer sur les solutions. C'est pour ça que j'ai créé mon propre sujet de PhD, de thèse. Je voulais qu'il soit interdisciplinaire sur les solutions. Et donc, j'ai créé un sujet entre un laboratoire d'économie, un laboratoire de sciences du climat, pour amener l'accès à l'électricité de façon renouvelable dans les zones les plus reculées du continent africain. Parce que là, on a un gros potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était un de mes engagements pour la recherche et pour mon sujet de thèse. Et un deuxième engagement qui était important pour moi, c'était en 2015, j'ai créé une association pour vulgariser avec des scientifiques des sujets en lien avec le dérèglement climatique en réalisant des interviews de ces scientifiques. Et pour que ces interviews soient ludiques et soient suivies par plus de personnes, je les ai réalisées en parapente biplace. Donc ça a bien marché et tout ça. Et pour professionnaliser un peu ce concept, j'ai créé avec des professionnels de l'audiovisuel une collection de documentaires qui, elle, montre les solutions qu'on a à l'échelle des Alpes. Le premier épisode, c'était sur les Alpes. Et on montre les solutions, on montre ces femmes et ces hommes qui agissent au niveau local pour trouver des solutions concrètes, donc locales et réplicables, et ensuite faire l'effet boule de neige, montrer qu'il y a des solutions et toucher des millions de téléspectateurs qui, au lieu d'être affalés après avoir vu un documentaire un peu catastrophiste et comme on avait l'habitude de voir, là on montre vraiment quelque chose qui est positif, optimiste et qui va faire se lever des millions de téléspectateurs pour avoir envie d'agir à ce niveau local.
Et vous pensez que c'est ça qui manque un petit peu, que les blocages qu'on peut avoir au sein de l'administration, c'est le manque d'idées, de solutions, d'idées nouvelles, de preuves qu'on peut faire autrement?
Je pense que ce qui manque au niveau de l'administration, c'est déjà, il faut vraiment qu'on récupère un peu cette vision de long terme qu'on a besoin pour la transition écologique et sociale, qui est de plus en plus mise à mal aussi avec une responsabilité de chacun sur le court terme et qu'on a tendance à privilégier, et aussi vraiment montrer que ces solutions, elles existent, que des personnes sont prêtes à les mettre en place sur les territoires, à les mettre déjà en place sur les territoires. Et que si on... Après, ça prend du temps parce qu'il faut... C'est des solutions qui prennent du temps, il faut les pousser. On a l'impression que c'est un peu anecdotique au début, mais en fait, finalement, si on imagine le potentiel de réplicabilité, donc si on imagine que ces solutions sont répliquées un peu de partout dans les territoires sans que chacun essaie de réinventer un peu la roue de son côté, on a un gros potentiel d'accélération de la transition écologique et sociale en incluant l'ensemble des acteurs de la société civile, les petites entreprises et les mairies, les collectivités de communes. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un peu ce qu'on a vu au municipal. On a vu une tendance aux élections municipales, on a eu une tendance des citoyens, des Français à vouloir plus d'écologie donc qui se manifestait par leur vote. Mais on a vraiment, par ces solutions, par les territoires, en fait, on a un gros potentiel justement d'accélérer cette transition écologique et sociale. Alors certes, c'est plus difficile pour créer des emplois, pour créer de la compétitivité, que de mettre, comme on a vu dans le plan de relance, des milliards sur des grandes entreprises. Mais finalement, si on arrive à prendre en compte ces territoires, à prendre en compte cette envie des personnes à accélérer cette transition et à créer finalement un nouveau modèle de société un peu différent, qui est plus juste et plus durable, eh ben on va vraiment réussir à faire un projet collectif vraiment intéressant et ambitieux.
Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on travaille dans l'administration pour remettre le temps long et justement se regarder le long terme et non plus les quelques objectifs court terme qui peuvent être électoraux ou autres d'ailleurs, pour changer un peu cette mentalité?
Et ben, en fait, l'administration, c'est assez intéressant parce qu'on, finalement, on a le, quand on travaille dans les ministères, dans les cabinets, on peut vraiment essayer de fixer des objectifs, essayer de rédiger des notes qui ensuite sont poussées pour être validées par les politiques. Donc, on a quand même un pouvoir assez fort. Et finalement, c'est un peu le rôle de cette administration, c'est de garder un peu le sens du long terme quand on a des responsables politiques qui, eux, sont aussi dans une démarche de long terme et de sens de l'intérêt général, mais aussi ont leur agenda électoral qui fait qui les pousse aussi à un peu plus du court terme. Donc c'est ça qui est intéressant. On peut vraiment, dans l'administration, si on a la volonté de pousser ces sujets de long terme, mais il faut qu'on ait aussi des responsables politiques qui suivent, et c'est de plus en plus le cas, j'ai l'impression.
Et ça passe par des initiatives comme la Convention citoyenne pour le climat, par exemple ?
Oui, la Convention citoyenne pour le climat, c'est super. Après, il faut vraiment qu'on puisse avoir des responsables politiques qui valident les propositions faites par la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça, c'est très important. Et que, justement, nous, en tant que citoyens, on puisse pousser ces propositions et on puisse rappeler aux décideurs politiques qu'il faut qu'ils mettent en place les solutions pour lesquelles ils s'étaient engagés. Et en fait, donc ça, c'est un peu la partie dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle si on travaille pour des ONG dans lesquelles on peut s'investir. Et ensuite, il y a toute une partie dans notre vie professionnelle. On n'a pas besoin forcément de travailler dans l'administration pour s'investir là-dessus. Moi, par exemple, je vois dans des grandes entreprises comme Schneider Electric, il y a beaucoup de personnes au sein de Schneider qui veulent s'investir, et donc après ça pousse les membres du comité exécutif à mettre en place des initiatives pour écouter ce que les collaborateurs de l'entreprise veulent mettre en place, et donc créer des espèces de conventions citoyennes au sein des entreprises ou au sein d'autres institutions. Donc on a vraiment le pouvoir de faire changer les choses, chacun en tant qu'individu, dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir conscience aujourd'hui.
Alors c'est chouette ce que vous dites, puisque ça me fait penser un petit peu à ce que disait Alexandre Boisson dans le premier épisode de cette saison 2 par rapport aux agora citoyennes qu'on peut créer, sans oublier que en fait l'engagement citoyen c'est pas quelque chose qui se passe tous les 5 ans quand on doit aller voter. Ça va bien au-delà. Donc c'est pour vous c'est ça aussi qu'il faudrait remettre au goût du jour, c'est l'administration en fait. Bon bah il y a eux qui réfléchissent, mais si c'est pas mis en place, si les choses ne sont pas faites, c'est comment est-ce que nous on doit pousser en tant que citoyen et à quel niveau?
Oui, bah, tout à fait. Et puis, ça rejoint, je suis aussi l'ambassadeur pour la fête de la science donc cette année. Et mardi dernier, je faisais des conférences dans des collèges. Et c'est ce que je disais aux collégiens, en fait. C'est qu'aujourd'hui, finalement, on peut voir le dérèglement climatique comme une formidable opportunité de transformer nos sociétés et de faire un grand projet de société commun où on peut s'investir. Et cet exemple que vous utilisez des agora, je trouve ça génial parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit remettre à l'ordre du jour. Et c'est ce qu'on voit dans les villages, en fait, quand on se balade un peu, il y a de plus en plus d'initiatives de personnes qui ont envie de recréer du lien social. Surtout après le confinement, surtout avec les réseaux sociaux qui nous isolent de plus en plus de la vraie vie, j'ai envie de dire. Et l'idée, c'est vraiment d'aller créer ces espaces de discussion où on peut réfléchir à comment on peut changer les sociétés, changer au niveau local, parce que c'est, encore une fois, c'est plus facile, c'est plus rapide de créer des changements au niveau local, et pas attendre voilà, qu'il y ait un messie qui vienne nous sauver de ça en se disant que, voilà, qu'on a des échéances électorales tous les 5 ans pour les élections présidentielles ou d'autres élections. Et donc ça, c'est vraiment très important qu'on ait conscience de ça et qu'on s'investisse pour ça, pour créer en fait finalement le futur dans lequel on veut vivre aujourd'hui et demain, parce que tous ces changements, ils vont arriver rapidement. Et donc, il faut qu'on s'adapte au dérèglement climatique et il faut aussi qu'on atténue donc le deuxième volet du dérèglement climatique, qu'on essaie de limiter nos émissions de gaz à effet de serre pour pas avoir à moins s'adapter, même s'il faudra quand même s'adapter.
Ça fait une belle transition en fait avec la deuxième partie de l'émission sur l'enseignement supérieur. Puisque donc vous intervenez, là vous l'avez dit, vous êtes intervenu pour la fête de la science dans un collège, mais vous êtes aussi conférencier, intervenant à Polytechnique, dans différentes écoles. Vous finissez une thèse, donc l'enseignement supérieur, c'est quelque chose que vous connaissez bien aussi. Comment est-ce qu'on peut s'engager avec l'enseignement, qu'il soit supérieur ou non d'ailleurs en fait, aujourd'hui?
Et ben c'est l'enseignement vraiment a un gros rôle à jouer dans ce processus et on voit de plus en plus d'initiatives se mettre en place. J'étais par exemple il y a 2 semaines à l'Université Paris-Dauphine et en fait ils ont rendu obligatoire un cours sur le climat pour toutes les L1, peu importe dans quelle filière ils se trouvent en licence 1. Donc ça, je trouve ça génial. Il y avait 800 étudiants, on faisait une conférence pour 800 étudiants et ensuite, ils avaient créé, le corps enseignant avait créé tout un cours pour l'ensemble des L1 à suivre sur comment on peut trouver des solutions. Qu'est-ce que c'est le dérèglement climatique déjà? Parce que pour trouver des bonnes solutions, il faut déjà comprendre les processus. Et ensuite, donc, pour toutes les personnes qui rentraient à l'université, ils créaient ce cours qui permet à tout le monde de mieux connaître ses problématiques et mieux connaître les solutions qui existent. Et donc, c'est pour ça que c'est pareil aussi pour les collèges et les lycées de faire de la sensibilisation, parce que non seulement, ce qu'il faut bien penser, c'est quand on fait une conférence même pour des primaires, pour des collèges, pour des lycées, on sensibilise les personnes qui font partie de la société et qui auront aussi des postes dans le futur, mais on sensibilise aussi tout leur écosystème. C'est-à-dire que quand on sensibilise un collégien, ce collégien va rentrer le soir dans sa famille et va parler de ce qu'il a vu la journée et petit à petit, ça va faire effet boule de neige. Et donc vraiment, cette sensibilisation est très importante. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin que la sensibilisation des générations futures, parce que finalement, le dérèglement climatique, ce n'est pas un problème des générations futures, c'est vraiment un problème de notre génération, des personnes qui vivent actuellement dans le monde, ils subissent déjà les effets du dérèglement climatique. On voit les inondations qu'il y a eu dans le sud, dans la vallée de la Vésubie, etc. Ça, c'est directement lié à une mer méditerranée qui est trop chaude pour l'époque par rapport à ce qu'on a connu dans le passé et qui est un effet direct du dérèglement climatique. On était aussi en Tanzanie en décembre dernier pour justement ces projets d'accès à l'électricité de façon renouvelable que je fais dans ma thèse que j'ai soutenue en mai dernier. Là, en Tanzanie, c'est pas un problème de... Il n'y a pas de neige, donc on ne peut pas skier l'hiver. C'est vraiment des personnes qui meurent à cause du dérèglement climatique parce que ça entraîne des sécheresses qui sont plus fortes, donc des cultures qui sont moins productives. Ça entraîne aussi des inondations et ça, on l'a vu directement sur le terrain. Et donc, c'est vraiment... L'enseignement supérieur a un gros rôle à jouer pour éduquer les scolaires et différents types de publics sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à avancer déjà avec les personnes qui sont dans la vie active.
Alors, c'est intéressant, encore une fois, parce que par rapport à l'enseignement supérieur, on peut le voir de deux manières. On peut voir former les étudiants, mais on peut aussi voir la partie former les professeurs. Parce qu'on voit qu'il y a aussi pas mal d'étudiants qui se sont plaints ces derniers temps sur justement la qualité ou le type de cours qu'ils pouvaient avoir, et pas seulement le fait qu'on leur apprenne finalement quels sont les enjeux climat, mais par exemple dans les universités plus commerciales ou dans les grandes écoles de commerce, sur les cours d'économie qu'ils pouvaient avoir. Où finalement, on abordait des modèles qui sont aujourd'hui, j'allais dire farfelu, c'est pas forcément le bon terme, mais qui en tout cas sont des modèles d'hier. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour former les professeurs, le corps enseignant à toutes ces problématiques, que eux soient sensibilisés pour ensuite pouvoir aussi faciliter la sensibilisation des élèves.
Ben ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est à pousser, parce que en formant bien à ces problématiques environnementales et climatiques le corps enseignant, on a un levier de sensibilisation qui est assez énorme avec tous les élèves et les étudiants en général. Donc là, l'idée, c'est... il y a deux parties. Il y a vraiment une partie, essayer de mieux comprendre ce dérèglement climatique en comprenant comment la Terre est sur cet équilibre climatique et comment ça s'est passé par le passé et quelles sont les projections pour le futur. Ça, c'est une première partie de meilleure compréhension de système climatique. Et une deuxième partie, vraiment, sur les solutions. Donc, c'est-à-dire les modèles qu'on va utiliser pour essayer de mettre en place les bonnes solutions, comme des modèles économiques, qu'est-ce qu'on rentre en paramètres à l'intérieur de ces modèles, comment on peut essayer de pousser des bonnes politiques publiques comme les taxes carbone ou montrer que finalement ces solutions écologiques qui permettent de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, elles sont aussi bonnes pour, par exemple, limiter la pollution atmosphérique, donc augmenter la santé humaine et aussi permettre d'augmenter le pouvoir d'achat et recréer du lien social. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, qu'on a tendance à un peu sous-évaluer, c'est qu'on a toujours tendance à penser que ces solutions écologiques, elles sont chères et elles vont coûter de l'argent. Et finalement, on ne les présente jamais comme quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Parce que finalement, quand on regarde au global ces solutions, elles permettent vraiment d'avoir, donc non seulement de limiter nos émissions de gaz à effet de serre donc pour lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi d'avoir tout un tas d'aspects positifs de ces solutions, que ce soit sur l'économie, sur l'emploi, sur la compétitivité, et vraiment montrer tout ce qui est positif dans ces solutions. Parce que, une fois encore, je me répète peut-être un peu, mais c'est souvent ce qu'on voit, c'est voilà, on a à cause des nouvelles normes écologiques, on va peut-être utiliser moins la voiture, donc ça fait vendre moins de pneus, moins de voitures pour les constructeurs. Mais à côté de ça, on va peut-être avoir une transition avec des nouveaux modèles qui impliquent des nouveaux métiers et qui peuvent créer un nouveau type de compétitivité et d'emploi qu'il faut recréer. Un exemple qui est assez intéressant, c'est par exemple sur les stations de ski de sport d'hiver. Les stations de sport d'hiver de moyenne montagne, moi j'habite à Grenoble, donc à côté il y a des stations de moyenne montagne qui subissent directement le manque de neige, et en fait elles sont obligées de trouver un nouveau modèle économique pour continuer de fonctionner. Et donc c'est difficile, c'est vraiment difficile, parce que ce modèle économique lié au ski, il est très simple en fait, et il fonctionne très bien. Mais par contre, il y a vraiment cette transition à avoir qu'ils sont obligés d'avoir parce qu'ils sont au pied du mur, et ils arrivent à trouver des solutions qui leur permettent de pérenniser de l'emploi, de pérenniser de la compétitivité dans ces territoires de moyenne montagne. Et donc ça, c'est un très bon exemple, c'est un peu les Alpes et les montagnes en général, c'est des sentinelles du climat. Et c'est ce qui nous montre ce qui nous donne des bons exemples de transition qu'on connaît actuellement aujourd'hui.
Alors, je suis d'accord, il faut effectivement parler des solutions et montrer l'impact positif que ça peut être. On en parlait d'ailleurs un petit peu par rapport au lien social, etc. Juste un point, alors en revenant sur l'administration, ou on va dire sur le côté politique, ouais. Vous parliez des voitures notamment. Y a eu un exemple il y a quelques jours à peine où finalement certains parlementaires, poussés par différentes associations, ont voulu faire passer une loi sur justement nouvelle taxe sur le poids des voitures qui pour permettre en fait de limiter le nombre de voitures lourdes, puisque ce sont les voitures les plus lourdes qui consomment le plus, notamment les SUV. Mmh. Et finalement, on voit que ce qui était une bonne idée, une bonne proposition qui allait dans le bon sens a été complètement réfuté et que ça passe à la trappe. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi ça se passe comme ça en fait?
Alors moi j'ai pas forcément j'ai suivi un peu ce qui s'est passé, mais par contre j'ai pas forcément les clés parce que j'étais pas dans les négociations et savoir comment ça s'est passé réellement sur le terrain à l'Assemblée, etc. Par contre, un exemple que je peux vous citer que j'avais eu quand j'étais dans l'équipe A21, l'idée c'était, on voulait faire un véhicule électrique à moins de 7 000 euros parce que Ségolène Royal avait pris un engagement qu'elle allait faire un véhicule électrique à moins de 7 000 euros. Donc on a regardé avec un groupe de travail constitué de différentes personnes. Il y avait des personnes de différentes entreprises qui travaillaient avec nous pour voir comment on pouvait faire ce véhicule électrique à moins de 7 000 euros, qui soit léger, qui soit et qui consomme pas beaucoup, quoi. Quelque chose, pas comme prendre une Twingo et mettre une batterie en dessous parce qu'on aura un véhicule lourd et qui fonctionne moins bien, avec une moins bonne autonomie. Et en fait, donc on poussait ce sujet-là, et ce sujet-là, en fait, on le poussait. Il y a d'autres personnes du cabinet qui ont voulu faire appel à des experts pour savoir si c'était possible de faire un tel sujet. Et en fait, il s'avérait que les experts auxquels ils ont fait appel, c'était des personnes qui travaillaient, des experts de chez Renault. Et en fait, les experts de chez Renault n'avaient aucun intérêt à dire qu'on pouvait faire ce véhicule électrique à moins de 7 000, parce que leur intérêt, c'était de vendre des Zoé. La Zoé, c'est une espèce de Twingo dans laquelle on met une batterie en dessous, et en fait, pour rentabiliser des chaînes de production qu'ils avaient. Donc finalement, le projet a été écourté parce que ces experts avaient dit que ce n'était pas possible de faire ce véhicule électrique à 7 000 euros. Et ça, je trouve que c'est assez fou. C'est vraiment, on a vraiment un problème aujourd'hui avec l'expertise et essayer de trouver la connaissance là où elle est avec des personnes qui n'ont pas de parti pris et qui vraiment nous montrent la connaissance. Et c'est là que c'est très intéressant de faire appel à des scientifiques, des chercheurs qui, eux, sont des chercheurs du CNRS ou des chercheurs publics et qui n'ont pas forcément de conflit d'intérêts en fait, sur ces questions-là, et qui peuvent regarder froidement et avec les avantages et les inconvénients et dire quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ce type de solution-là et dire si c'est pertinent ou non d'utiliser ce type de solution. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas assez appel et qu'on ne prend pas le temps, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est encore une fois, c'est un problème de temps. Dans l'administration, on ne prend plus forcément le temps de consulter les scientifiques, les chercheurs qui sont neutres et qui nous permettent d'avoir les avantages et les inconvénients d'une solution. Et ensuite, on tranche en ayant toutes les clés en main. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on pousse. Ce qu'on a vu un peu avec la crise sanitaire sur l'appel à la médecine scientifique, mais qui, encore une fois, n'est pas assez poussé dans la société. C'est vraiment, on est encore trop en silo, entre un silo administration et un silo scientifique, alors qu'il faudrait essayer de créer plus de ponts entre ces différents silos.
Alors, ça fait pas mal écho à une discussion que j'avais avec Célia, que j'ai interviewé dans un des épisodes de la saison 1, qui elle a passé pas mal de temps au Parlement européen en tant qu'assistante parlementaire, ouais. Et qui racontait qu'en fait donc les députés s'entouraient effectivement de conseils ou d'experts, mais finalement jamais des deux bords en fait, et qu'ils allaient toujours préférer tendre l'oreille à finalement un petit peu toujours la même histoire plutôt que d'écouter les deux ou les trois finalement versions qu'on pouvait entendre sur une histoire. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser ça? Est-ce que c'est finalement des citoyens qui doivent à bah, pousser les députés avant les voix à écouter d'autres sons de cloche. Comment est-ce qu'on fait?
Alors, j'ai pas forcément la réponse à cette question qui est assez complexe. Par contre, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est par exemple valoriser, favoriser en fait des ponts tout simplement entre science, administration et par exemple peut-être dans le métier de chercheur, pouvoir faire chercheur, ensuite passer 2 ans peut-être une fois qu'on a fait de la science sur une dizaine d'années sur un sujet, par exemple sur l'hydrogène, si on prend cette énergie du futur, et ben qu'on puisse ensuite avoir des postes un peu de conseiller où voilà, différents membres de l'administration peuvent faire appel à nous pour rédiger des notes de façon totalement neutre et en expliquant les avantages et les inconvénients de cette solution pour le futur. Et ça serait intéressant de créer ces ponts via des nouveaux types de postes qu'on pourrait créer qui seraient un peu à l'interface. Il faut vraiment qu'on fasse des postes intéressants. Moi, j'ai fait ma thèse, justement, je voulais créer, être à l'interface entre économie et sciences du climat. Et en fait, les deux laboratoires que je suis allé voir, ils n'avaient pas du tout, ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Et finalement, grâce à la thèse, on a vu qu'au début, c'était un peu compliqué parce que on parlait pas forcément le même langage entre des chercheurs en économie et des chercheurs en sciences du climat. Mais si on faisait l'effort de construire ce pont et de comprendre l'autre comprendre les recherches de l'autre, on arrivait finalement à un résultat qui était super et qui nous permettait d'avoir des résultats encore mieux que si on avait fait 2 thèses dans chaque laboratoire différent. Donc créer ces ponts, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage et pour ça, il faut qu'on se donne les moyens. Et c'est forcément moins facile que d'écouter des experts qu'on a l'habitude d'écouter et qui disent un peu tout le temps la même chose. Mais par contre, au final, on arrivera à des décisions qui seront beaucoup plus éclairées parce qu'elles auront été éclairées par en tout cas par différents types d'avis et notamment des avis qui sont non intéressés et qui peuvent être le cas parce que voilà, on n'a pas de contrat avec des entreprises où on a vraiment la liberté de dire ce qu'on veut et cette liberté de dire ce qu'on veut, elle est construite sur une dizaine d'années d'expérience, par exemple dans la recherche ou dans la science.
C'est hyper intéressant, encore une fois, je trouve, puisque ça fait aussi écho à pas mal de choses que j'entends de la part d'amis chercheurs qui se disent bah, que ça fait 10 ans, par exemple, qu'on publie des notes, des rapports sur tel ou tel sujet. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit les citoyens, ou le politique ou la société civile, le découvrent comme si c'était quelque chose de nouveau, mais tout simplement parce qu'en fait, on travaille en silo entre nous et qu'il y a assez peu soit de vulgarisation ou soit de transmission de ces informations vers l'extérieur, en dehors de la sphère de la recherche.
Ouais, mais c'est exactement pour ça que j'avais créé en 2015 l'association En l'air pour la Terre, où on faisait ces interviews de scientifiques. Parce qu'en fait, finalement, quand on lit un article de recherche, on comprend, enfin, c'est très difficile à comprendre. Même moi qui ai une formation voilà, scientifique et ingénieur, quand je lis un article de recherche, faut le lire plusieurs fois pour bien le comprendre et tout ça. Donc, le grand public, en fait, il ne peut pas du tout accéder à cette connaissance via les articles de recherche. C'est pas possible parce que c'est pas compréhensible. Et donc, l'idée, c'était par contre, quand on discute directement avec les scientifiques qui ont écrit l'article, ils nous l'expliquent de façon très simple et en fait, on peut tout à fait bien le comprendre. Donc c'était vraiment l'idée, c'était d'essayer de vulgariser cette science. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde le dit, hein, de toute façon, on a un gros problème en science, dans la recherche, à savoir comment on note le travail d'un chercheur. Et en fait, on est en train petit à petit de se calquer un peu sur le modèle anglo-saxon, qui est voilà, un chercheur qui est un bon chercheur, c'est quelqu'un qui va beaucoup publier et qui va publier dans des revues internationales, etc. Et finalement, en fait, on se rend compte que le métier de la recherche, il est en train d'évoluer, parce que si on doit plus publier, il faut qu'on soit sur des sujets qui sont un peu à la mode, etc. Et qu'on va peut-être pas être, finalement, l'utilité de la recherche pour la société va être peut-être moindre quand on fait cette course à cette publication. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir d'autres modes de notation des chercheurs, et notamment comment ils s'investissent pour vulgariser la science pour le grand public. Comment ils s'investissent pour utiliser leurs travaux à des fins de conseil pour des personnes de l'administration ou pour du politique. Parce que finalement, tout ça, on est tous les chercheurs, l'administration, etc. ils sont tous payés par l'État. Et finalement, ça devrait faire un tout commun avec des, pas des silos, mais une complémentarité très forte. Et en fait, cette complémentarité très forte, on ne l'a plus du tout. C'est ce lien entre recherche, administration, politique. Il existe presque plus, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Donc il faut qu'on mette des indicateurs qui puissent nous permettre de favoriser, voilà, qu'un scientifique aille vers l'administration, aille vers le politique, et inversement que le politique et l'administration aillent vers les scientifiques pour prendre des décisions qui sont éclairées et retrouver ce sens un peu du long terme qu'on a eu tendance à oublier dans l'administration, dans la recherche et dans le politique.
Et ça serait à quel niveau du politique qu'il faudrait justement organiser un petit peu ces échanges, au niveau des députés, au niveau des maires?
Un peu à tous les niveaux. L'idée, c'est vraiment que ça se fasse, ça puisse être diffusé à tous les niveaux, parce que finalement, on a besoin de toute cette connaissance. Après, ce qui est intéressant quand même, les maires, je trouve que les maires, les communautés de communes, elles ont peut-être un peu plus ce lien vers le politique. C'est plutôt... peut-être renforcer encore plus ce lien avec plutôt les cabinets ministériels et l'administration centrale, parce que c'est là où on peut avoir aussi des décisions vraiment très long terme qui sont prises. Je pense notamment, par exemple, le plan de relance, de miser sur l'hydrogène ou d'autres thématiques comme ça. Et le problème dans l'administration centrale et dans les cabinets ministériels, c'est qu'on n'a pas le temps. En fait, voilà, le temps, c'est à l'échelle de la dizaine de minutes, de la minute. Il faut faire une note dans 30 minutes pour le ministre. Et en fait, on n'a pas le temps de consulter les personnes ressources. Donc, il faudrait peut-être avoir des scientifiques qui eux, soient en charge de consulter d'autres scientifiques sur ces thématiques et puissent avoir un peu plus de temps pour le faire et pour mettre des pour dire si ou les avantages et les inconvénients de tel ou tel type de solution, et que ça soit un discours qui soit entendu et qui soit fort.
Donc, ça serait plus de personnes dans les cabinets pour justement pouvoir prendre ce temps-là, puisque aujourd'hui il y a pas assez de monde, c'est ça?
Aujourd'hui, oui, et puis toutes les personnes qui sont prises sont sur des postes bien particuliers et n'ont pas forcément le temps. Là, c'était ce que, pour revenir à l'exemple de Renault et de la Zoé du véhicule électrique, c'est exactement ça en fait. Voilà, la personne a une note sur son bureau dans le cabinet qui dit on va essayer de faire un véhicule à 7000 avec ses avantages, ses inconvénients, tout ça. Il regarde, il se dit la note, il dit moi j'ai pas la compétence pour savoir si c'est possible ou non. Paf, je décroche mon téléphone, j'appelle un expert qui en l'occurrence est un expert de Renault. Et qui dit non, c'est pas possible de faire cette voiture électrique à 7000 euros parce que lui, ça l'arrange bien pour ses intérêts économiques et son business. Et donc voilà, la personne prend du cabinet, prend la note et la met au placard. Donc l'idée, c'est que non seulement il faudrait avoir des personnes qui aient plus un background scientifique dans les cabinets et qui aient plus le temps de consulter ses pairs scientifiques. Il faudrait aussi dans l'administration centrale qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aient voilà, ces compétences scientifiques et qui puissent faire du conseil scientifique pour les personnes qui vont rédiger les politiques publiques. On peut imaginer aussi à l'Assemblée quand on rédige les lois et aussi avoir plus d'interventions d'intervention et de formation un peu obligatoire des personnes dans l'administration pour en savoir plus sur ces sujets, quoi. Donc il y a plein de petites choses à faire, mais qui pourraient créer des ponts pérennes entre la science, l'administration et la politique au niveau national.
Ça fait quand même pas mal de choses à tenter. Je propose qu'on discute un petit peu peut-être des conseils que vous auriez ou des messages pour les gens qui soit travaillent aujourd'hui dans l'administration et l'enseignement supérieur, ou en tout cas en vocation à y rentrer, pour justement comment faire pour s'engager, comment essayer de mettre en place justement ces premières pistes qu'on a évoquées.
Un conseil tout simple, c'est allez-y. Vraiment, allez-y. Parce que déjà, créer ces ponts et tout ça, c'est hyper motivant parce qu'il y a tout qui a créé et surtout que ça fait un sens sur ces thématiques de la transition écologique et sociale, parce qu'il y a cette urgence climatique auquel il faut répondre, et cette urgence climatique, on arrivera à y répondre justement en créant ces ponts ou en renforçant les ponts existants, hein, parce qu'il y a déjà des ponts qui peuvent exister, et vraiment ne pas hésiter à aller vers l'autre et aller se renseigner sur comment fonctionne, si on est chercheur, comment fonctionne une administration, et essayer de rentrer pour proposer un peu ces services. Ça demande du temps au début, c'est clair, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, mais finalement le résultat est à chaque fois assez incroyable et nous permet vraiment d'avancer et d'avancer rapidement et de façon concrète. Donc, faut vraiment, si on est dans l'administration, même si on est dans les entreprises, dans la recherche, faut absolument aller vers l'autre, essayer, prendre du temps pour comprendre les problématiques auxquelles les différentes personnes sont soumises, parce que chacun est soumis à des problématiques bien particulières, et essayer de voir comment on peut créer ces ponts, faire des réunions ensemble, des espèces d'agora, comme vous disiez, et essayer de discuter avec les autres pour comprendre leurs enjeux et comprendre comment nous, en tant que scientifiques, en tant que responsables de bureau dans une administration ou en tant que membre d'un cabinet, on peut y répondre et créer ces ponts et voir que ça va vraiment nous aider en fait à avancer sur ces thématiques. C'est vraiment ça qui est important. Donc, allez-y, gardez de la motivation, de l'énergie et voilà, faut foncer parce qu'on n'a plus le temps. Et puis c'est hyper positif en fait parce qu'on va créer des choses positives, on va créer des solutions et puis finalement ça donne encore plus d'énergie, encore plus de motivation et on est heureux finalement.
Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces informations, tous ces conseils pour s'engager. Et puis aussi, bravo déjà pour tout ce que vous faites aujourd'hui. Vous, votre engagement depuis un moment, que ce soit pour sensibiliser, pour vulgariser et pour enseigner également. Donc un grand merci pour tout ça. Et puis à très bientôt.
Ouais, merci beaucoup Jean-Philippe et puis bravo aussi pour votre podcast et à toutes les personnes que vous avez interviewées, c'est vraiment super et ça contribue à la sensibilisation et à pousser à l'action et à montrer toutes ces solutions. Donc un grand merci et à très bientôt alors.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !